pense que c'est ringard de penser que le féminisme est passé de mode.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Lâchez nos utérus.
C'est ça qui est important. On discute à partir de sa situation. Ça donne un souffle nouveau au féminisme.
Popol Show, le podcast d'actualité de Popol Media. Le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Show. Le troisième épisode de la nouvelle saison de Popol Show, l'épisode pendant lequel on va vous parler d'actualité politique, votre podcast d'actualité politique préféré, bimensuel désormais. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nat.
Bonjour, écoute, c'est très gentil, j'espère que je vais être pertinente. C'est la première fois que je participe réellement à un podcast sur la politique, c'est pas vrai. J'ai déjà fait le millième tour,
du ouais, coup,
j'ai aucune excuse. Voilà, bah, du coup, j'ai aucune excuse. Je vais donner mon maximum.
C'est clair, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, c'était un millième tour pour te faire la main et c'était cool.
C'était trop bien, mais en fait, j'en ai même fait deux. Voilà, j'ai vraiment aucune excuse. Là, je suis rodée et du coup, je suis très contente d'être là. Merci de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît ?
Bien sûr. Je suis streameuse du coup depuis 2016. Donc, au début, j'étais surtout streameuse de jeux vidéo. J'ai fait 5 ans d'études dans le jeu vidéo. Je voulais devenir 3D artiste, character artiste. Et au final, bah, malheureusement, l'étude de jeux vidéo a le même problème que l'industrie du jeu vidéo. Donc, j'ai fait un burn-out à cause des conditions de travail. Mais je voulais rester dans le domaine du jeu vidéo. Donc, j'ai commencé à streamer. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai aussi commencé à beaucoup me parler politique. Ce que je faisais déjà sur mon compte Twitter, mais pas en stream parce que la communauté de Twitch, c'est surtout des masculins et des hommes, et pas du tout politisés. Et la politique sur Twitch, c'était très mal vu au début, bien avant Brexit, tu sais, c'était même banni quand on faisait de la politique. Mais ça s'est ouvert, lentement mais sûrement, et du coup maintenant, je fais autant de jeux vidéo que de politique. Je parle beaucoup de féminisme, de harcèlement, de discrimination de manière générale, et j'essaye de faire de mon mieux pour éduquer des gens, ou en tout cas donner un espace safe pour que des gens puissent parler et se retrouver dans un endroit de divertissement, mais sans la crainte des discriminations habituelles.
Du coup, on te retrouve sur Twitch, sur les réseaux sociaux, et il faut aussi préciser que tu es cofondatrice de Furax. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît ?
Absolument, oh là là, j'avais peur que ma présentation soit trop longue, mais effectivement, avec mon amie Joule l'année dernière, qui sur un coup de tête m'a dit « Hey, on fait un événement caritatif pour une association féministe », parce que c'est vrai que les événements caritatifs sur Twitch se font, mais c'est en général pour des trucs apolitiques. Donc, ça va être des trucs où tout le monde est d'accord, la fin dans le monde, Médecins sans frontières et tout, qui sont très, très bien. Mais c'est vrai que nous, on avait vraiment cette volonté, effectivement, de s'intéresser aux violences sexistes et sexuelles. Et du coup, donc, on a lancé Furax en l'année dernière. On a fait avec les moyens du bord. Il y a plein d'autres personnes qui se sont ajoutées à l'orga et maintenant, on est 9. Du coup, on a fondé ça en association. Ça y est, on est une association loi 1901, si je ne me trompe pas. Et merci. Et du coup, voilà, donc on est une association, ça y est, on a des adhérents et tout. Et du coup, cette association, elle nous aide à créer Furax, donc la deuxième édition qui va avoir lieu là le 5, 6, 7 avril. Voilà, ça va être encore un marathon caritatif. On aura des tables rondes, on aura plein d'invités, on aura aussi des jeux parce qu'on va parler de sujets un peu graves, des fois un peu pesants. Donc l'idée, c'est de mettre des jeux de temps en temps pour remonter un petit peu l'ambiance. Et voilà, et ça va être incroyable. Et cette année, ce sera pour féministe versus cyberharcèlement avec le thème principal du coup autour du cyberharcèlement.
Trop cool, et bah génial, on note bien les dates, hein. 5, 6, 7 avril, on a hâte de voir ça. Moi je passerai vous faire un petit coucou en fin d'événement, parce que du coup je serai pas à Paris ce week-end-là, mais trop cool, on est à Donf derrière Furax. Merci beaucoup Nathalie. Deuxième invitée de ce nouveau podcast de Popol Show, Safia Aït-Warabi. Bonjour Safia.
Salut Léa, salut les
couilles. Comment vas-tu ?
Je vais très très bien. Nathalie, tu as une voix incroyable. Je pense que je kiffe t'écouter.
Je crois que tu as gagné une nouvelle abonnée.
Pour me parler politique.
Sérieux, c'est trop gentil, merci.
Ça va, merci beaucoup.
Safia, est-ce que tu pourrais nous parler de toi aussi, s'il te plaît ?
Carrément. Alors moi, du coup, je m'appelle Safia, je suis étudiante en sociologie à la fac de Nanterre, j'ai 22 ans et je suis militante antiraciste. Ces derniers mois ont été faits de beaucoup de choses pour moi parce que j'ai démissionné de la vice-présidence de SOS Racisme suite au traitement du conflit israélo-palestinien par l'association. J'ai eu l'occasion d'en parler avec toi, Léa, notamment sur Backseat. Et là, maintenant, avec des camarades, je vais lancer ma nouvelle organisation le 22 mars qui va s'appeler la Riposte antiraciste.
Génial. Et tu as le droit de disclose un peu ou pas trop?
Ouais, carrément, j'ai le droit de vous teaser. J'ai eu la petite autorisation. Alors du coup, cette organisation, c'est une organisation antiraciste et anti-impérialiste qui du coup est née du fait que cette année 2023 était très particulière. On a connu 3 mouvements sociaux en un an, chose qui n'était pas le cas auparavant. Et je crois qu'aujourd'hui, notre génération est traversée à la fois d'une colère, mais aussi d'un besoin de structuration et d'organisation, d'un besoin de s'organiser sur différentes thématiques, le féminisme, l'écologie, l'antiracisme. Et je crois qu'aujourd'hui, avoir un antiracisme qui est capable de se structurer, notamment dans les facs et dans les lycées, de repolitiser le lien avec nous, nos parents immigrés, de leur faire comprendre qu'ils sont puissants d'une certaine manière, d'aussi favoriser par exemple l'auto-organisation des mineurs isolés, réunir des secteurs voilà, qui ont déjà un savoir-faire, qui ont déjà des politisations, mais d'une certaine manière aussi bah, pour gagner, parce que c'est aujourd'hui des questions parfois dans le monde militant qu'on n'ose plus trop se poser. On se dit que le contexte est tellement difficile qu'il faudrait faire en sorte être dans une sorte de moindre mal. Je crois qu'aujourd'hui, non. Le temps, au contraire, nous permet d'être ambitieux et de se poser la question de véritablement comment gagner. Et dans le cas de mon organisation, se poser la question concrètement de comment abolir le racisme moderne et les oppressions qu'on connaît.
D'où le terme riposte sur l'organisation. C'est super, ça a l'air très intéressant. Ben, on a hâte d'en découvrir davantage. Donc le 22 mars, j'imagine qu'il va y avoir une communication officielle. Où est-ce qu'on pourra retrouver les actus, les actions, s'engager aussi pour celles et ceux qui souhaiteraient le faire?
Exactement. Dans un premier temps, on va se lancer le 22 mars sur les réseaux sociaux. Vous allez notamment avoir accès à notre manifeste qui va vraiment être notre base et notre colonne vertébrale idéologique. Le 23 et 24 mars, on va faire un week-end de création parce qu'en fait, paradoxalement, le collectif va être créé, mais en fait, on a déjà plein de militants autour de nous, notamment à la fac de Nanterre, à Paris 1, à Paris 8, un petit peu à Marseille et dans d'autres villes. En fait, on va prendre voilà, un temps pour se poser des questions, notamment la première question qu'on va se poser durant ce week-end de création, c'est pour un antiracisme révolutionnaire. Et dans un second temps, c'est comment faire face à la violence et à la criminalisation dans le contexte actuel. Et à partir de là, sur les réseaux sociaux et sur le terrain, vous pourrez nous retrouver et militer avec nous.
Génial, merci beaucoup Safia, merci beaucoup. Et enfin, troisième invitée de ce nouveau podcast, Louise Chagnot. Bonjour Louise.
Hello.
Comment vas-tu?
Très très bien, je suis très contente de venir à Popol le papoter et avec des filles aussi cool.
C'est vrai, bon, j'espère que ça va être cool, que ça vous plaira. Louise, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai 25 ans, je suis architecte à Paris et un peu dans le Limousin. Je suis aussi enseignante dans une école d'archi publique à Paris. Et je suis bénévole dans différentes assos et projets en lien avec les personnes exilées. Et je suis aussi bénévole chez notre cher Jean Massier à Baxit.
Qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu peux nous parler un peu de ton bénévolat sur Baxit? Je pense que ça va aussi intéresser celles et ceux qui nous écoutent et aussi tes activités de bénévole par ailleurs avec les personnes exilées dont tu parlais.
Pour Baxit, moi, je suis modératrice essentiellement. Donc, on essaye de voir dans le chat que ça se passe à peu près bien. Alors qu'on évoque des sujets liés à la politique, parfois c'est un peu tendu, notamment ces dernières semaines, mais ça reste super, il y a une très belle équipe hyper chouette. Et ensuite, les activités associatives, je suis dans une asso qui s'appelle What is That, qui a été créée il y a pas mal d'années maintenant, qui édite, publie et met à jour chaque mois un guide à destination des personnes exilées à Paris, à Lyon, à Toulouse, dans l'Oise, dans 5 langues selon les villes plus ou moins, et qui permet d'avoir des informations pour les personnes qui arrivent sur le territoire, des trucs très rapides, très urgents comme où se loger, où manger, où s'habiller, puis aussi quelques conseils juridiques. En gros, le but, c'est de renvoyer les gens vers les associations qui ont les savoir-faire, les compétences qu'ils ont développées malheureusement. Voilà. Et il y a aussi un projet qui s'appelle Navire à venir, qui essaye de créer un nouveau bateau pour, en lien avec SOS Méditerranée, plus adapté sur la Méditerranée.
Super, et ben merci beaucoup Louise, merci Nathalie, merci Safia. On va commencer du coup à parler Popol, puisque c'est ce qu'on aime bien faire ici. On a choisi deux thèmes aujourd'hui, on va vous parler de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les fréquences de la télévision numérique terrestre, autrement appelée TNT, et des élections européennes. Sans plus tarder, commençons par cette réjouissance à venir, les élections européennes. Les listes commencent à tomber. Nous connaissons désormais les têtes de liste des principaux partis qui présentent des candidats aux élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. Les formations politiques ont jusqu'au 13 mai pour déposer leur liste. Autant vous dire que nous ne sommes peut-être pas tout à fait au bout de nos surprises. À gauche, les partis de la NUPES n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour proposer une liste commune. À droite, les Républicains cherchent à se faire une place entre le parti présidentiel et le Rassemblement national qui est actuellement donné vainqueur de ces élections. Qu'est-ce que ces élections vous évoquent? Est-ce qu'elles vous emballent? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Quels sont les principaux enjeux d'après vous? Peut-on aussi regretter l'absence d'une union à gauche? Enfin, pourquoi l'union divise-t-elle autant à gauche? Je sais, ça fait beaucoup de questions. On va peut-être pas répondre à tout, mais quand même. Hein, votre ressenti là, à quelques mois de cette élection, Nathalie.
Alors, moi c'est compliqué parce que j'ai vraiment été une mauvaise élève sur les élections européennes, c'est-à-dire que je me suis pas assez renseignée et là je vois un peu ça en mode j'ai des devoirs, tu vois, donc j'étais un peu en mode je sais qu'on n'a pas encore toutes les listes qui sont sorties, j'entends des bruits à droite à gauche, genre il me semble que c'est Marion Maréchal-Le Pen encore là qui va représenter Zemmour, il n'y a pas un truc comme ça. Voilà, donc bon, j'entends des petits bruits en fait j'entends à chaque fois des petites brides et plus j'en entends, plus ça me déprime. Effectivement, du côté de la NUP, moi je peux surtout te parler de la NUP parce que bah, ça, c'est celle que je suis, c'est celle qui m'intéresse le plus. Le fait qu'elle n'ait pas réussi à s'unir, bah, ça me déprime encore plus parce que pour moi ça c'est un avant-goût de ce qui risque d'arriver aux présidentielles, tu vois, les prochaines présidentielles, moi je suis vraiment comme ça. Donc voir la NUP qui n'arrive pas à s'unir encore et voir que du côté des LFI, on est encore derrière Quatennens qui est juste à mes yeux un suicide politique de s'acharner comme ça quand on est de gauche. En fait voilà, pour l'instant, pour moi les européennes, c'est une grande source de déprime. Effectivement, quand tu dis que c'est le RN qui a l'air de partir du côté des gagnants, bah pour moi c'est une source de déprime supplémentaire et du coup je me dis qu'il faut vraiment que je me renseigne, que j'essaye de suivre les programmes. Et en même temps, là, je vois ça comme une corvée et comme des devoirs. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas qu'on va pas y arriver, mais il y a cette impression de bon, bah, c'est compliqué, on va aller nulle part. Je me souviens aussi qu'il y avait, tu sais, il y avait le NPA qui avait expliqué pourquoi ils n'arrivaient pas à s'entendre avec la NUPES. Et vraiment, tous les arguments de la NPA étaient vraiment bons. Genre, toi, tu es là, tu lis ça, tu comprends pas pourquoi la fille n'arrive pas à voir ça. Donc, il y a vraiment un aspect désespoir en mode à gauche. Il y a vraiment des problèmes pour s'unir et on comprend pas pourquoi. À droite, ils font n'importe quoi et ça passe. Et du coup, vraiment, je trouve ça ultra déprimant. Et je vais quand même essayer de mettre un coup de collier, tu vois. Mais voilà, je vois vraiment ça comme une corvée et des devoirs. Et je me dis, si moi, alors que pourtant la politique, ça m'intéresse quand même sincèrement, je vois ça comme des devoirs et une corvée, j'imagine même pas pour les gens pas trop politisés et tout. Déjà, les élections présidentielles, on a beaucoup d'abstention. Là, les européennes, encore une fois, je sais même pas combien ça va être, mais l'abstention, elle va encore bien crever le plafond, je pense.
Ouais, non, ça c'est clair que c'est pas méga réjouissant, effectivement. Louise, est-ce que tu penses que est-ce que tu partages le sentiment de Nathalie qui est en mode bien mais pas ouf, voilà ce qui est à venir, inquiétude aussi par rapport effectivement aux partis d'extrême droite et de droite et présidentielle, ma foi, l'inquiétude par rapport au fait que à gauche il y a une difficulté à s'unir, de toute évidence un échec même, on peut le dire. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que globalement les élections européennes c'est quelque chose pour lesquelles on a peu d'intérêt, mais aussi pourquoi? Est-ce que genre c'est une élection qui pour nous est importante ou est-ce qu'on est trop déconnecté de ce qui se passe un peu à Bruxelles pour comprendre et se dire ok là il y a un sacré enjeu, parce que en vrai c'est je veux dire il y a quasi pas d'élections avant 2027 là si je dis pas de conneries, donc c'est un peu notre seul moment où on va pouvoir s'exprimer de manière élective, en quelque sorte, à travers la représentation la représentation européenne de nos élus, jusqu'aux prochaines élections 2026-2027.
Bah oui, je suis assez d'accord. Bon, je suis assez déprimée aussi, mais le fait qu'on, tout le monde a vachement de mal à s'y intéresser, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font ça, quoi. Mais il y en a un qui est que bah, personne n'explique vraiment, personne ne comprend trop ce qui se passe à l'Union européenne, et personne ne veut vraiment expliquer parce que c'est plutôt facile de dire que c'est de la faute de l'Union européenne. On l'a vu pas mal sur la crise de l'agriculture, et alors que c'est des enjeux qui pourraient être hyper facilement compris, enfin tout le monde se sent un peu concerné, ou comme les enjeux liés à l'électricité, etc., dont on pourrait saisir, mais en fait, j'ai pas trop l'impression que ça arrive pour l'instant. Et puis la désunion de la gauche, c'est très déprimant, ouais. Mais il y a aussi la structuration de l'extrême droite qui est encore très 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 flippante à l'échelle nationale. Et surtout à l'échelle européenne, on se dit que les petites alliances avec l'AFD en Allemagne ou avec les Italiens, alors que le bloc d'extrême droite est donné à 36% dans les sondages en France, c'est vraiment très flippant.
Ouais, alors ça c'est clair. Alors, j'ai l'impression qu'on oscille un peu entre résignation et colère et envie que, ben, de refuser en fait ce récit qu'on cherche à nous imposer comme si c'était couru d'avance. Safia, est-ce qu'on a quand même, ben, déjà un peu ton sentiment aussi global sur la situation, mais est-ce qu'on a quand même pas quelques raisons de se réjouir, je veux dire, sur la composition des listes? Est-ce qu'il y a des trucs qui te hype un peu dans cette élection? Ou est-ce que tu penses aussi que c'est genre, c'est foutu, 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 quoi?
Ah, désolée, hein. Moi, il n'y a vraiment rien qui me hype. Pardon, je suis désolée de fou. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, moi, ma vision des élections européennes, alors, c'est pas que je suis résignée, au contraire, c'est au contraire que j'ai l'impression qu'on a de bonnes raisons, malheureusement, de ne pas s'y intéresser. Parce qu'en fait, quand les partis politiques, même à gauche, disent en fait aux gens et à la génération que nous sommes que possiblement... nous sauver passera par les élections, en fait, je sens qu'il y a des non-sens qui nous traversent parce qu'en fait, on sait qu'on est tellement au bord de la falaise en termes de dérèglement climatique, en termes de régime, même en Occident, même en France, où bah, d'une certaine manière, ça s'autorise un peu. Là, sous les quinquennats Macron, c'était assez chaud, les criminalisations de l'antiracisme, du féminisme, des luttes écolo, de nos manifestations, que là, il y a même des non-sens en fait, économiques qui sont archi-forts. Enfin, même Macron essaye de faire sa campagne sur ça, sur la question des guerres. Enfin, là, il y a de tels... On est dans un contexte vraiment de désordre mondial assez préoccupant. Il y a l'inflation, les gens sont pauvres, tout le monde pète des câbles. Et donc, en fait, les élections deviennent des non-sens pour beaucoup d'entre nous. Moi, je sais que je suis traversée par ça. Je ne crois pas que ce soit un problème du moment qu'il y a une réponse à ça. Moi, c'est pour ça que, par exemple, je suis plutôt de cette école-là, en réalité, plutôt révolutionnaire, où je ne pense pas que moi, ça va me sauver... les échéances électives. Par contre, je pense que ce serait ultra problématique, voire réactionnaire, de se dire de « les élections, ça ne sert à rien, donc je reste comme ça ». Et en fait, il faut se dire que, comme tu dis en fait, Léa, entre la 2024 et 2027, il va falloir en fait que notre camp social se mobilise sur des échéances pour qu'en fait, les gens comprennent leur puissance, qu'on peut s'investir dans des mouvements sociaux, qu'on peut s'organiser, qu'on peut faire des grèves, tout en s'intéressant, y compris aux périodes électorales. Moi, je crois que les périodes électorales, si on doit s'en saisir, c'est notamment pour que les gens adhèrent à des idées, adhèrent à des programmes. Et là, bah, moi, même à gauche, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on a plus parlé de tête que de programme. Et moi, le projet européen, comme ça ne me convainc pas parce qu'on est confronté en réalité à une Europe de l'argent, à une Europe forteresse, notamment sur les questions migratoires. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Puis, quelle dinguerie, enfin, l'ancien directeur de Frontex qui rejoint la liste du Rassemblement national aux Européennes, la liste de Jordan Bardella, moi, ça m'a fait intégrer un truc dans ma tête, là, bien profondément, que je n'avais pas réfléchi avant. C'est, mais en fait, l'extrême droite n'est ni une anomalie de l'Union européenne, ni une anomalie républicaine. Et là, il va falloir se poser vraiment les vraies questions pour que des gens avec de telles idées aient des tels postes, en fait. Moi, c'est un peu ça, les deux, trois claques que je me suis prises. Et donc, ouais, à gauche, c'est le bordel, mais à l'extrême gauche, en réalité, c'est aussi le bordel. Enfin, là, le NPA qui s'est fait têche par la LFI, mais il y a l'autre NPA qui voulait faire une liste commune avec Lutte ouvrière, et ils n'ont pas voulu, bon, aussi pour des bonnes raisons. Bon, tout ça, ça veut dire quoi? Qu'en réalité,
les gens aussi n'arrivent pas à proposer de programmes à la hauteur ou alors à le populariser auprès des gens. Pour moi, c'est ça le vrai problème.
Bah alors, tout à fait d'accord sur effectivement finalement les enjeux lorsqu'on voit un peu nos réalités au quotidien et les réalités de certaines et certains. L'enjeu électoral finalement, il est bien moindre. Et puis effectivement, on fait de la politique différemment. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin et surtout on ne doit pas se reposer uniquement sur les élections. Ça c'est clair. Donc je pense que tu as raison là-dessus, c'est évident. Autre chose aussi sur lesquelles je voulais vous interroger, c'est effectivement cette absence de réunion de la NUPES pour ces élections. Tu disais, Nat, tout à l'heure que pour toi, ça pue pour 2027. Est-ce que tu penses que là, c'est vraiment genre la consécration de la fin de la NUPES, vraiment ?
En fait, le problème pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes différents. Pour moi, déjà, la NUPES, son arrivée a été trop tardive. Je sais que tout le monde l'a dit sans exception, donc je vais essayer de ne pas répéter, mais le fait qu'elle soit arrivée après les élections présidentielles, il y avait une petite partie de moi qui était là en mode à quoi bon, mais j'étais en mode ok, au moins ils essayent, voyons voir jusqu'où ça passe. Et en fait là, tout ce qu'ils arrivent à nous prouver, c'est que en fait ça casse au bout de quelques mois et qu'ils n'arrivent même pas jusqu'aux européennes avec. Donc effectivement, on est trop dans le dooming ici, c'est terrible, mais moi ça me désespère encore plus parce que en gros pour moi la NUPES c'est arrivé trop tard et en plus ils n'ont pas réussi à la tenir, donc et en plus voilà, on voit que au premier problème elle explose et en fait j'ai vraiment comme je disais tout à l'heure, en plus il y a le problème LFI. Pour moi en fait j'arrive pas à me détacher du fait que la NUPES c'est beaucoup LFI qui en est un petit peu le noyau entre guillemets, sans être les seuls représentants. Et du coup si LFI arrive pas à régler son problème déjà en interne avec Quatennens, qui moi vraiment m'obsède, et je sais que c'est que un des problèmes, c'est vraiment celui qui me trotte dans la tête le plus, mais bien sûr il y en a d'autres, mais du coup pour moi tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème là en fait le problème de la NUPES ne se posera même pas encore, tu vois, à mes yeux, parce que il y a déjà un problème comme ça. Et du coup moi en fait ça fait un petit moment que j'ai cette réflexion et où je me dis qu'en fait à gauche on est vachement pénalisé par un truc qui est parfaitement normal, mais du coup j'avoue j'ai pas de réponse à comment s'en sortir à ça. C'est à dire que à gauche on a tendance à vouloir beaucoup plus d'exemplarité et à beaucoup plus s'arrêter sur des problèmes et à être intransigeant en mode on fait pas de compromis, et c'est normal. Je veux dire, quand on est dans l'antiracisme, on fait pas des compromis sur la Palestine ou des choses comme ça, normal, absolu. Là où à droite, ils en ont rien à foutre. À droite, ils font des compromis avec n'importe qui. On l'a bien vu, Macron, extrême droite, tout ça. Eux, ils sont prêts à aller très, très loin et tout. Et en fait, il y a une partie de moi qui est en mode, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu les limites d'un système d'une démocratie classique avec juste une gauche, juste une droite, etc. Là où le centre était censé faire office de garde-fou, alors c'est un très grand mot, là en fait on voit bien que le centre ça n'existe pas en France. Le centre en fait c'est juste une porte d'entrée pour la droite supplémentaire. Et du coup en fait là pour moi il y a un peu les limites entre guillemets du système qu'on a actuellement. On voit l'extrême droite monter, ça fait des années qu'on dit que l'extrême droite elle monte. Ça fait des années du coup que la gauche essaye de faire quelque chose, de s'unir, de proposer des nouvelles têtes, ou alors d'avoir des traîtres. Voilà, la seule solution qu'a trouvé la gauche, c'est d'avoir des traîtres. Merci le PS. Et du coup, même ça, ça marche pas. Même avoir des traîtres, ça marche pas. Ils finissent à droite. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, vraiment, je suis toujours dans le dooming. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que notre salvation ne va pas venir des élections, tu vois. Mais d'un autre côté, quand je vois ce qui s'est passé avec les réformes des retraites, en fait, j'ai peur que plus on va avoir un gouvernement de droite, plus les manifestations, les grèves, ils sont en train de discuter du fait de faire sauter les grèves pour les JO. Du coup, j'ai vraiment peur que même nos manifestations sociales n'aillent nulle part ou qu'au contraire, on se fasse réprimer dans la terreur et la violence. Et du coup, je suis en mode, qu'est-ce qui nous reste ? Je suis en mode, il faut vraiment qu'on commence à réfléchir à des nouveaux moyens de faire de la politique qui vont peut-être encore plus loin que juste avoir des partis et espérer que la gauche finisse par s'entendre, parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Voilà,
c'est clair. Non, tout à fait. Juste pour résumer un peu le fond de ma pensée, lorsque je disais que c'est clair que, et ce que disait aussi d'ailleurs Safia par rapport aux élections qui vont pas nous sauver. moi, je suis convaincue qu'il faut tabler sur les deux, sur partout, en fait. Hein, c'est ce que tu disais, Safia. Je veux dire, il faut effectivement qu'on soit là, en dehors des institutions, en dehors des partis, pour s'organiser, pour avancer. Mais il faut aussi qu'on traite l'urgence qui est, lorsqu'on a l'extrême droite au pouvoir, lorsqu'on a des gens de droite au pouvoir, comme on le voit aujourd'hui, nos droits reculent. Voilà, et les droits des autres reculent. Donc, il faut, voilà, je pense qu'il faut être de partout, en fait, un peu comme l'extrême droite l'est. Safia, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais, tout à fait, sur ce que disait Nathalie sur la compromission, je trouvais que c'était ultra intéressant. Moi, ça fait vraiment partie de mon logiciel et je l'ai vraiment compris là, ces dernières années, moi, dans mon militantisme, c'est qu'en fait, les compromissions se font toujours sur la droite quand elles s'adaptent à notre système politique et à la démocratie actuelle qu'on connaît tout le temps, même à gauche. Moi, c'est pour ça que je suis désolée, mais j'ai même un problème avec le projet de la NUPES, c'est qu'il est tellement adapté au régime actuel politique qu'on connaît, à cette 5e République, qu'en fait, bah, les compromissions se font toujours sur la droite où on va donner à manger notamment un parti comme le PS, et on va perdre certaines revendications basses programmatiques qui vont être plutôt radicales, qui vont être plutôt à gauche. Donc ça, c'est très compliqué pour moi. Et du coup, ça se ressent partout où il y a une désadhésion absolument gigantesque, en fait, au régime politique actuel. On le voit par l'abstention, on le voit par l'adhésion à la désadhésion à la 5e République. Et je crois que c'est ultra important de se dire que ce n'est pas utopiste de repenser un système économique et politique. Au contraire, je crois que c'est le moment ou jamais, parce qu'en fait, face au désespoir, quand on voit plusieurs choses, la défaite des mouvements sociaux, mais pourquoi il y a une défaite des mouvements sociaux ? Aussi parce qu'il y a certaines directions, qu'elles soient syndicales ou que ce soit de certains partis qui peuvent être dans la compromission vis-à-vis, par exemple, je ne sais pas, du gouvernement, à vouloir absolument négocier, ayant peur de la colère sociale, alors qu'en vrai, on est légitime. Les autres choses que je vois, c'est la compromission, on va dire, en termes de programme, on va essayer de tirer à droite pour plaire à certaines personnes. Bah ouais, ça nous désespère de ouf, mais ça nous désespère uniquement si on n'a pas un plan pour vraiment avoir une base programmatique qui réfléchit à une nouvelle société. Moi, je crois foncièrement qu'on peut aller vers une société qui a des bases socialistes, qui a des bases communistes. Bon, après, c'est très moi, c'est très Safia, mais je suis sûre que ça parlerait à des personnes si après, on ne vient pas avec nos gros sabots en disant « Lis Marx, moi, je sais que je ne suis pas du tout une meuf qui lit, je ne me suis pas politisée comme ça. Moi, je me suis grave politisée avec la situation politique où je me suis dit « C'est une aberration, le machin. » Et donc, je suis très d'accord avec ce que tu disais, Nathalie. Ces phénomènes-là vont amener du désespoir, mais pour les combattre, il faut un moment qu'on se prenne en main. Qu'on se prenne en main, genre, en dehors, en fait, de ces partis traditionnels. Après, moi, je pense que la question du parti est importante, mais c'est quel parti pour quel projet de société, par contre.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Et effectivement, quand il y a des compromis qui sont réalisés entre partis, mais même pas forcément qu'entre partis, même sur des projets de loi, etc., on l'a vu pour l'IVG dans la Constitution. C'est la version la moins protectrice, la version la plus à droite qui a gagné, en fait. Donc, effectivement, il est nécessaire de pas faire de la compromission par le bas, en fait. Parce que moi, c'est comme ça que je le perçois, ou par la droite, si on peut le dire autrement. Et sur les récits, sur la nécessité aussi de construire des imaginaires désirables et l'utopie, la place des utopies, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, bon, je fais un peu de pub, mais je viens d'écrire un livre que je viens de publier là-dessus. Et c'est évident que le récit en politique et le fait de s'autoriser, ne serait-ce qu'à imaginer une alternative à ce qu'on nous pousse à imaginer au quotidien, c'est-à-dire que voilà, on va droit dans le mur. Moi, je considère qu'on y est déjà dans le mur, hein, mais bon, c'est peut-être un critère d'appréciation un peu différent. Bah, en fait, c'est pas satisfaisant. Et c'est pas ça qui va nous faire avancer. Au contraire, c'est en proposant des alternatives, en construisant un contre-récit, qu'on va y arriver. Et la gauche ne le fait pas. La gauche ne le fait pas. La gauche ne le fait pas au niveau national. La gauche ne le fait pas non plus au niveau européen. Et je voulais juste revenir aussi là-dessus, peut-être pour conclure sur ce thème, avant de passer à la suite, si ça vous va. Louise, tu parlais tout à l'heure de l'alliance des droites au niveau européen. C'est quand même très, très inquiétant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est en train de voir que non seulement l'extrême droite est en train de gagner au niveau national, dans différents États, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, la France, où vraiment, je veux dire, tu disais, Nat, exactement, mais on se répète depuis quoi ? Des décennies que l'extrême droite est en train de monter, mais en fait, elle est
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
En train de monter. Elle est montée. Elle est là. Donc, il y a quand même des choses qui sont super inquiétantes. Je veux dire, c'est le principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que ça, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour comprendre qu'en fait, on est déjà dans un gouvernement... on n'est même pas... Il y en a plein qui disent qu'on est dans une société pré-fasciste. On est dans une société qui est déjà fasciste, en fait. Et ça se vérifie dans nos institutions. Et au niveau européen, c'est turbo inquiétant. Donc, ouais, Louise, si tu veux bien revenir juste là-dessus et peut-être conclure sur l'aspect très inquiétant que ça peut avoir pour les prochaines élections et la gueule du Parlement européen qu'on risque d'avoir, quoi.
Oui, mais du coup, j'ai pas énormément de choses à rajouter par rapport au fait que ça soit très inquiétant. On a parlé de l'ex-directeur de Frontex qui apparaît sur la liste RN. le mec a quand même des allégations, des procédures disciplinaires en cours, qu'il a essayé de s'échapper. En plus d'être un manque de courage évident de quoi que ce soit, les idées sont nauséabondes, donc ça fait très 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 peur. Et du coup, il faut structurer, quoi. Face à cette structuration qui est bien en marche et qui, même si peut-être au niveau national, on a l'impression que RN et 10 de Marion Maréchal, c'est un peu différent. On sait qu'ils vont vite se retrouver quand même au Parlement européen, quoi.
Oui, bien sûr, parce qu'ils siègent ensemble dans un seul et même groupe. Mais ce qui est quand même ouf, c'est que la gauche aussi, en fait. Je veux dire, les gauches européennes siègent ensemble. Manon Aubry est la vice-présidente du groupe des gauches européennes au Parlement. Et elle est où, en fait, la gauche européenne, quand il s'agit de parler ensemble? Moi, je ne vois rien. C'est-à-dire que soit ils sont excessivement mauvais en communication, mais ils sont quand même en train de préparer quelque chose et une super belle surprise. Bon, j'ai pas l'impression. Ou alors, il n'y a rien qui est en train de se structurer. Et qu'est-ce qu'on fout, quoi? Qu'est-ce qu'on fout?
Oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter, je dis RN Marion Maréchal, mais j'aurais pu rajouter LR aussi, parce qu'on sait que Bellamy a été assez proche quand même de Marion Maréchal Le Pen. Moi, je suis de Versailles et j'ai vu des petites réunions qui regroupaient les deux, quoi.
Oui, c'est clair. Ils n'ont rien à envier, effectivement. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé vos inquiétudes, on peut le dire comme ça, sur ces élections à venir qui nous emballent pas des masses, faut bien le dire, mais qui nous permettront en tout cas de réagir et de nous structurer peut-être en dehors des partis et des institutions. Et ça, ce sera peut-être effectivement, comme tu le disais, Safia, une opportunité. Et c'est comme ça qu'il faut la voir en tout cas à ce stade. Parlons maintenant de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les fréquences de la télévision numérique terrestre, TNT. La commission d'enquête présidée par les députés Aurélien Saint-Toul, LFI et Quentin Bataillon Renaissance, dont les travaux et auditions viennent de débuter, s'est fixée trois objectifs. 1. Faire toute la lumière sur les procédures d'attribution des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre, TNT. Examiner le respect des engagements pris par ces services de télévision et 3. Se pencher sur les moyens de contrôle du respect de ces engagements mis en œuvre par l'ARCOM, qui est, je vous le rappelle, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Pour mener à bien leurs travaux, les députés ont mené toute une série d'auditions depuis février et cette semaine se sont présentés devant elles. Et eux, Vincent Bolloré, le multimilliardaire et fondateur du groupe Vivendi qui continue à contrôler via son fils, etc. Et Cyril Hanouna, l'animateur star de l'émission TPMP. Il est important de dire, comme le rappelle Mediapart, que l'émission TPMP s'est vue infliger 5 millions d'euros d'amende entre février 2022 et janvier 2024 par l'ARCOM pour être contrevenu aux règles de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance, à tel point que le renouvellement de la fréquence TNT de C8, qui devrait intervenir en 2025, est loin d'être acquise. J'imagine que, comme beaucoup de personnes, vous avez suivi de près ou de loin ces auditions. Qu'en avez-vous pensé? Et de manière plus globale, que pensez-vous de la concentration des médias en France. Safia, est-ce que tu veux débuter là-dessus?
Oui, avec plaisir. Je trouve que dans cette commission là, d'enquête pour l'attribution des fréquences sur la TNT, les auditions d'Anouna, de Bolloré, etc., ce qui était intéressant, c'est que la concentration des médias par des milliardaires était quand même quelque chose, moi, je trouve, de très, très en arrière-plan, alors même que c'est quelque chose qui a déjà, en vrai, été un sujet, même institutionnellement parlant. C'était même pas un truc qui était porté par la gauche radicale. En vrai, il y a quand même une espèce de consensus sur la question à gauche, on va dire, et dans le centre-gauche, sur le fait que c'est un problème, et le fait que ça bouffe la place du service public audiovisuel, etc. Moi, je vous avoue que déjà, voilà, ma première impression, c'est que je trouvais que c'était grave en arrière-plan, mais que oui, c'est vrai que l'audition de Vincent Bolloré, elle est un peu venue remettre ça sans que véritablement il y ait un traitement médiatique et politique de la concentration des médias. Bon, ça déjà, moi, ça m'a surpris. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé archi chaud, c'est comment Hanouna, Pro, Sonia Mabrouk, Bolloré se sont positionnés en résistant face à la censure. Et en fait, moi, ce que je trouve archi chaud, c'est que ces chaînes-là, de la famille Bolloré, là, donc les CNews, voilà, bref, tout ce qui est le groupe Canal+, quoi, finalement, en fait, ont vraiment participé de manière mainstream à la radicalisation vers l'extrême droite de nombreuses personnes en France, vraiment. Pour moi, on peut parler de radicalisation parce que je le vois dans les agressions et les crimes racistes. Il y a eu des radicalisations individuelles qui ont permis des passages à l'acte, d'accord, sur le corps de personnes noires, arabes, issues de l'immigration en France. C'est ça la réalité des chaînes Canal+, c'est un vecteur de radicalisation idéologique. Et du coup, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, j'ai bien vu même les réactions sur les réseaux sociaux, c'est « Allez, courage pour ces auditions, vous êtes les résistants face à la censure idéologique de l'État et tout. » Et en fait, moi, j'étais vraiment en mode, ils ont toute une partie, voilà, de convaincus, une espèce de grande fanbase extrême droitisée qui les voit comme des résistants. Et je pense que c'est quelque chose, voilà, dont on doit s'interroger sur comment combattre l'extrême droite au-delà, en fait, de l'État, parce qu'en fait, en réalité, moi, je l'ai vu, hein, les dissolutions ne sont pas une solution parce que l'extrême droite, bah, il se voit du coup comme des espèces de martyrs. Puis en plus, on a Darmanin qui, en plus, vient dissoudre la gauche en même temps pour faire du en même temps, quoi. Et justement, du coup, tout ce questionnement d'État autour de Canal+, bah, il se voit encore comme des résistants face à la grande censure d'État. Et je me dis, putain, mais dans ce cas-là, nous, il faut qu'on arrête aussi de compter sur l'État pour, d'une certaine manière, combattre l'extrême droite, pour défoncer cette image de martyr. Il faut aussi qu'on arrive dans la bataille culturelle que les médias, mais Léa incarne merveilleusement ça, d'une bataille culturelle contre l'extrême droite, mais aussi nous, sur le terrain, sur les facs, et les élections européennes, nous, dans les facs, on va s'en prendre plein la gueule, il faut qu'on soit sur le terrain et qu'on fasse front uni contre cette extrême droite. Donc moi, voilà, c'est ça qui m'a préoccupée, c'est que les gens se voient comme des martyrs, et que du coup, on va dire, voilà, le sujet de la concentration des médias est un peu venu en arrière-plan.
Ouais, tout à fait. Et ce qui est encore plus étonnant, puisqu'on a appris aussi cette semaine que le groupe CMA-CGM a racheté BFM TV et RMC pour 1,55 milliard. Non, merde, je dis n'importe quoi. Bon, attends, mais si moi, je commence à propager des fake news, on est mal quand même. Hein. C'est quoi le montant? Mais c'est un truc de ouf, le montant. Attendez, je vais voir ça. C'est 1,5 million? Ouais, 1,5 million. Milliard, milliard, bordel, c'est bien ça, c'est bien ça. Le groupe CGA-CGM a racheté BMC... ah, je vais y arriver. Je refais cette phrase. Je vous disais quand j'ai envie de parler trop vite. Le groupe CGA... Putain, je vais pas y arriver, bordel. On refait? Ouais, allez, on est... Le groupe CME.
Je fais, c'est sous mes yeux, quoi. Non, mais c'est...
Je le fais si tu veux, je le fais.
Ouais, vas-y, je te laisse faire.
Alors, le groupe CMA-CGM rachète BFM TV et RMC pour 1,55 milliard d'euros.
Parfait, je crois qu'on va pas le couper au montage parce que c'est juste beaucoup trop drôle. Comme ça, les gens verront un peu les dessous de Popol, quoi. Mais oui, non, pas millions, milliards, c'est millions, meuf.
Oui, j'ai dit milliards.
T'as dit milliards? Ah, j'ai compris.
Oui, je te promets.
En fait, t'es tellement choquée, Léa, t'es tellement choquée par la somme que ça voulait pas sortir.
Je fais un déni, je fais un déni de milliards, quoi. Non, mais c'est de la folie. Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, merci Safia de souligner le rôle que joue Popol là-dedans. Popol a fait une belle levée de fonds de 2000 euros depuis le 1er janvier. C'est pour vous dire un peu qu'on ne joue pas tout à fait dans la même cour. Quoi qu'il en soit, faites des dons à Popol. C'est un média reconnu service de presse en ligne. Vous pouvez faire des dons défiscalisés à hauteur de 66%. Et comme ça, on va pouvoir remettre du pluralisme au milieu de tout cet empire médiatique. Bon, allez, vraie question, effectivement. Merci, Safia, de l'avoir abordée. Nathalie, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire en sorte que, finalement, les médias sortent du domaine lucratif ?
Mais en fait, déjà, la suppression de la redevance TV, moi, je ne la comprends pas. Si, je la comprends très bien. Hein, c'est parce qu'on a un gouvernement de droite, et comme tu l'as dit, qui est dans le fascisme. En fait, contrôler les médias, c'est le premier pas vers le glissement de terrain fasciste. Et encore, j'aime beaucoup le terme glissement, parce que là, pour moi, on a quitté le dérapage, glissement. Pour moi, là, on est un concours de patinoire, en fait. Ça fait longtemps qu'on a quitté les glissements. Donc, il suffit de voir la réforme.
C'était du bobsleigh.
Non, mais c'est ça. À ce niveau-là, c'est des Jeux Olympiques du ski. Je veux dire, faut se calmer 5 minutes. On est dans les Jeux Olympiques d'hiver. Faut voir la gueule de ce qu'on a pris pendant la réforme des retraites. On s'est fait attraper la veste par pas mal d'ONG sur les droits, juste les droits, tu sais, de manifestation. Il suffit de voir aussi ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Moi, j'oublierai pas Sainte-Soline, la violence que c'était, l'horreur monumentale, les images de compléments d'enquête quand même qui font beaucoup rire avec ce sergent qui est là en mode « Oh non, ils sont en train d'attaquer le mauvais parti. Oh, ils sont cons, putain. » Je m'en remettrai jamais. À mes yeux, c'est vraiment ce mec-là déconfie devant ces hommes qui attaquent le mauvais groupement de gens parfaitement pacifiques. Pour moi, ça, c'est vraiment la représentation que je me fais du gouvernement actuellement. Et encore, ça sous-entendrait qu'ils sont juste cons, ils ne le font pas exprès, alors qu'on sait très bien qu'il y a une intention derrière. Donc voilà, en fait, moi déjà, quand je vois ça, effectivement, encore une fois, il y a un aspect où je suis complètement perdue. Et en même temps, je me dis, ça ne pouvait pas être autrement, tu vois. Genre, pourquoi, dans quel univers on se dit, si c'est important la liberté de la presse, qu'on va permettre à des individus de racheter la presse? Ça n'a aucun sens. C'est un non-sens total à mes yeux. La seule explication, c'est qu'on est dans une société capitaliste. Le but, c'est la rentabilité. C'est toujours plus rentable quand c'est un individu qui paye. Et le problème, c'est qu'à ce jeu-là, les gens de gauche sont forcément perdants, puisque plus on est à gauche, moins on est pour le capitalisme en général. Et donc, moins on a tendance à être amis avec des riches et des ultra-riches, vu qu'en général, ils veulent garder leur argent et donc ils sont à droite. Si vous connaissez une personne d'ultra-riche de gauche, donnez-moi son 06, par pitié. Et dites-lui dites-lui d'envoyer de l'argent à Popol, dites-lui de donner lui le lien de mon PayPal. Enfin voilà, là, on aura des trucs à faire. Mais je ne crois pas que ça existe, des ultra riches de gauche. Ils peuvent être centre éventuellement, un peu traître éventuellement. Mais du coup, en fait, on est déjà perdant à ce jeu-là. Le fait d'avoir rendu les médias accessibles à l'achat fait que la gauche est déjà perdante par défaut, en fait. C'est juste logique qu'à gauche, on aura moins de moyens. Le seul contre qu'on peut avoir, c'est le financement participatif. Effectivement, on ne peut pas avoir un mec riche, mais on peut avoir plein de gens avec un petit peu d'argent. C'est ce qui se passe à Blast, à Mediapart. Et Mediapart, je crois que c'est le seul média qui arrive à en être rentable à ce niveau-là. Donc, c'est la preuve qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est extrêmement dur. Et du coup, pour moi, effectivement, si jamais la gauche, allez, petit fantasme, si jamais la gauche arrive à revenir au pouvoir, je pense que refaire en sorte que la télé et en tout cas les médias deviennent ne puissent pas être possédés par un seul individu ou par un seul groupe, etc., je pense que c'est vraiment capital, effectivement, pour la liberté de la presse, etc., parce que là, en plus, ce qui se passe avec Bolloré et tout, c'est on ne peut pas avoir le meilleur exemple d'à quel point ça peut mal tourner, d'avoir un individu qui possède ça. Surtout que dans les déclarations de Bolloré, il a quand même admis haut et fort que s'il ne croyait pas à quelque chose, il ne le diffuserait pas sur ses antennes. Donc là, on est vraiment dans une personne qui utilise son argent et ses moyens colossaux pour diffuser sa pensée et sa mentalité. Et ça devrait tous nous mettre la puce à l'oreille. On devrait limite tous être dans la rue en train de dire « mais ça ne va pas du tout » et tous nos politiques devraient s'en saisir. Et effectivement, on en est au point où là, pendant les prises de parole d'Hanouna et de Bolloré, on est au spectacle. C'est-à-dire que Hanouna, il se défend comme il se défend toujours dans son émission. Il promet d'en faire une émission qui reviendra sur tous les trucs de l'Assemblée et tout. Ils font du spectacle, c'est le cirque en fait. Et ils l'assument. Et le pire, c'est que ça marche. Et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la rhétorique qu'a Hanouna. Parce que là, il y a encore des articles qui datent d'hier qui sont sortis. Hanouna, c'est la même défense que toutes les personnalités de droite qui se font choper pour avoir dit de la merde. C'est « on s'acharne sur moi ». En réalité, je suis une victime, les gens me persécutent, on me harcèle. Et en plus, il y a vraiment cet aspect, il fait une fleur, c'est-à-dire que quand il revient sur l'histoire avec Louis Boyard, il dit des trucs du style « non, mais moi, je suis sympa, je l'invite pour lui faire plaisir », alors que bah non, c'est pas censé être pour nous faire plaisir, la pluralité d'opinion, en fait, c'est ce que t'es censé faire, et il fait passer ça pour une fleur et tout. Donc là, pour moi, c'est vraiment le cirque, et les mecs arrivent et ils font le cirque. Et en fait, ça ne devrait pas exister. Donc, j'espère, je touche du bois, parce que j'y crois pas trop, mais j'espère vraiment qu'effectivement, bah, ils vont se faire sucrer je perds mes mots, mais j'espère qu'en 2025, en tout cas, bah, ils vont se faire dégager. Ouais. Et vas-y, tu as le mot en question ?
La fréquence TNT.
Merci.
J'ai réussi.
Merci. Mais du coup, voilà, j'espère que ça va dégager et que ça va au moins donner une petite leçon en mode, OK, bah, si jamais il y a des individus qui veulent posséder ça, mais que vous faites n'importe quoi comme CNews fait n'importe quoi, comme tous les trucs Bolloré font n'importe quoi, j'espère qu'il va y avoir des conséquences. Mais j'y crois pas trop, parce que quand on voit le gouvernement, le cirque, ils sont bien contents d'y participer. Tu vois, il y avait à l'époque, Marlène Schiappa, elle a quand même parlé des élections présidentielles chez Hanouna. Ils en ont parlé. Le simple fait qu'ils l'ont évoqué, pour moi, ça prouve que le gouvernement, il est pas hermétique à cette idée. Au contraire, ça les intéresse. Donc, c'est mal engagé, quoi.
Ouais, carrément. Puis il y avait même hier, je crois, sur TPMP, Carl Olive... qui était là pour parler justement de la commission. Enfin bon, bref, un enfer. Et il y a aussi cet aspect très important que vous avez souligné toutes les deux, à la fois Nathalie et Safia, le fait que c'est un outil de bataille culturelle, en fait. Et c'est très inquiétant, parce qu'on se rend bien compte, effectivement, de l'impact que ça a, du brainwashing, du lavage de cerveau que ça peut avoir sur certaines personnes. Comment ça se concrétise par ailleurs par des actes de haine, par des crimes de haine, puisqu'ils sont effectivement légitimés par un discours ambiant qui est absolument hallucinant. En plus de ça, on rajoute que maintenant, il y a des discours qui sont identiques au sein même de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Donc, les crimes de haine ne cessent d'augmenter puisque les gens sont en roue libre en se disant « Mais attends, mais si des députés disent ça, mais si des présentateurs avec des millions de personnes qui les matent à la télé peuvent dire ça, bah, ça veut dire que moi, je peux y aller. » Donc, c'est très, 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 très inquiétant. Le projet idéologique de Bolloré, il est clair. Hein. Louise, j'imagine que toi, tu as suivi aussi un peu ce qui s'était dit. Comment on fait ? Moi, j'ai une vraie question. Alors, je pense qu'on n'a pas la réponse. Je veux dire, là, 5 millions d'euros d'amende. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on fait de plus, en fait ? Si ce n'est effectivement l'ultime recours qui serait en 2025 d'avoir la suppression de cette fréquence TNT. Mais de toute façon, on sait très bien, ils vont aller sur Internet. Ils vont trouver un autre endroit. Voilà, c'est Soral qui avait fait ça, c'est Le Pen qui avait fait ça. Je veux dire, c'est les premiers à avoir développé des chaînes, des vlogs, etc. Donc, ils vont trouver des alternatives. Comment on fait, Louise, pour essayer aussi de contrer ce discours et de contrer cette force, en fait, cette force de frappe idéologique qu'a le groupe Canal ?
Eh bien, moi, je n'ai pas trop de solutions. Et en plus, je n'ai pas réussi à écouter en entier les auditions et tout, parce que c'était vraiment infâme. Enfin, c'était... Enfin, il y a quelqu'un sur un Discord qui me fait marrer, il a qualifié ça de symphonie des ouin-ouin. En fait, il n'y a rien qui a été dit de ce qu'on ne savait pas. Les mecs racontaient leur vie pour noyer le poisson. Les députés étaient en giga galère et il n'y a vraiment rien qui est ressorti. Et donc pas non plus de solution ou d'autres menaces que les amendes ou la suppression du canal, mais qui sont peu probables pour l'instant, et des amendes qui dissuadent de très peu. Donc moi, je suis vraiment dans l'attente des autres auditions de la commission qui peut-être seront intéressantes. Je sais qu'il y a RSF bientôt, enfin bon voilà, mais pour l'instant pas grand chose. Et effectivement, même s'il y a des grosses sanctions, ils vont se retrouver sur Internet, mais ça leur donne quand même, ça amenuise quand même la force de frappe de moi, on peut espérer, ou en tout cas un combat un tout petit peu plus équitable, si on peut le dire comme ça.
Et sur l'aspect, genre vraiment bataille culturelle, idéologique de Bolloré, parce que c'est pas que, d'ailleurs, c'est pas que la télé, hein, c'est l'édition, c'est le JDD, bordel. Enfin, si tu veux bien réagir là-dessus, Louise.
Oui, bah, c'est ce que tu dis, c'est au-delà de la télé sur le JDD, et la bataille culturelle est très assumée et hyper décomplexée. Et bordel, c'est le mec qui met Zemmour à l'antenne et qui le reconnaît quand même à demi-mot enfin plus qu'à demi-mot d'ailleurs pendant l'audition, et enfin à l'époque The Bon, il a déjà été condamné plusieurs fois et tout, enfin c'est, enfin, et puis oui enfin ça a de l'effet d'être diffusé à la télé sur la TNT quoi, c'est pas rien, c'est hyper important.
Bien. Bah, merci toutes les trois d'avoir partagé vos réflexions. Sauf si vous voulez éventuellement rajouter quelque chose, je vous propose qu'on passe aux actus, aux thèmes, aux choses dont vous vouliez nous parler. Et si on commençait avec toi, Louise ?
Yes, bah avec plaisir. Moi, j'ai des petites recos pour un peu sortir des têtes de la politique et du militantisme, parce qu'il faut vraiment... faire ce taf et pas se sentir coupable, sinon on peut pas militer efficacement, je pense. Moi j'ai une petite reco d'expo à Paris que je suis pas encore allée voir, mais qui est sur de l'architecture, qui s'appelle La Grande Réparation, c'est au pavillon de l'Arsenal, et en gros le postulat c'est bon bah voilà, on est dans un monde de croissance qui n'est pas illimité, donc qu'est-ce qu'on fait, on arrête de démolir, comment on répare les bâtiments et comment on travaille aussi avec les travailleurs et les travailleuses du secteur du bâtiment qui sont souvent invisibilisés et qui font le travail d'entretien autour de ces questions de logement qui sont majeures aujourd'hui. Voilà. Et j'ai aussi une petite autre reco, je ne sais pas si je peux faire deux reco pour aussi les non-parisiens qui ne peuvent pas aller voir l'expo. La semaine prochaine, c'est le nouvel an dans certaines cultures, notamment perses iraniennes. C'est des fêtes très importantes. Ça a commencé il y a quelques semaines parce que c'est un peu un calendrier. Donc on voit notamment en Iran les jeunes, tous les gens, les femmes aussi qui sortent dans la rue danser, chanter, sans voile, etc. qui font preuve d'un courage de fou et qui essayent de continuer ce mouvement révolutionnaire qui ne s'essouffle pas. Et j'ai une petite BD très chouette sur l'Iran qui est très très belle. C'est Majnoun et Leili qui est une sorte de conte un peu ancestral de culture perse et arabe, et qui a été traduit en français et reversifié et dessiné hyper, hyper magnifique par Yann Damzan. Enfin, vraiment, esthétiquement, c'est un truc de fou. Donc, je vous encourage à regarder ça pour un peu de poésie au milieu des élections européennes et des auditions de Bolloré.
Merci beaucoup, Louis. C'est cool, c'est sympa, les bonnes rocos culture comme ça. Ça fait toujours plaisir. Nat, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Ah bah moi, je suis désolée, je vais être un disque rayé, mais je vais toujours vous parler de Furax, du coup. Parce que du coup, là, on est dans la dernière ligne droite d'organisation de l'événement. On a réussi à fixer nos invités. On a plein de streamers incroyables. On a réussi à avoir Horty, qui est phénoménal. On a réussi à avoir... j'ai trop de stress, j'ai oublié les noms, mais plein de gens trop bien. C'est pas vrai. Il y a Maudie qui va être là, qui va être trop cool aussi. On a plein de gens qui étaient déjà présents à la dernière édition, et surtout un détail que j'ai oublié de préciser au début, c'est que on a vraiment une volonté d'être aussi inclusive que possible. Donc là, on l'a fait en plus en partenariat avec Afro Gameuse qui sont directement dans l'organisation de Furax et tout, qui ont participé, qui ont pu proposer des intervenants et tout, mais on s'est aussi rapproché du collectif des dévalideuses qui sont donc sur vraiment plus sur les questions autour du handicap et tout. On a aussi Perso Caché qui, un peu comme Afro Gameuse et tout, vise à mettre plus de lumière en fait sur les personnes marginalisées, etc. Donc voilà, on a vraiment essayé de ouf d'être encore un step au-dessus niveau représentation, et du coup ça va se sentir dans nos tables rondes. Pour l'instant, je suis assez contente sur notre liste d'invités. On a plus d'intervenantes que d'intervenants. Je ne crois pas qu'il y ait un seul autre événement caritatif qui peut se vanter de faire ce genre de choses, à part évidemment Etat Cause, qui est un autre événement caritatif super cool. Et bien sûr, il y en a d'autres événements caritatifs, en tout cas ouvertement féministes. Mais du coup, voilà, à part cela, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ce genre de choses. Donc voilà, on est vraiment ultra contente, et on espère que ça va bien marcher et que les gens vont être contents d'être là. Voilà.
Trop stylé, trop stylé. Ça donne vraiment envie. Bravo, bravo, bravo pour l'orga. Et on a hâte de voir tout ça. Merci beaucoup, Nathalie. Enfin, Safia, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît ?
Bon, Louise et Nathalie, vous êtes trop stylées. Moi, j'ai l'impression d'être la meuf qui va casser l'ambiance. C'est qui disait ça déjà sur les féministes pour casser l'ambiance là pendant les fêtes ?
Casser l'ambiance en soirée ?
Mais ouais, c'est ça.
Et on dessert notre. C'est Caroline Doise qui avait écrit ça dans sa bio Twitter. Était là, je casse l'ambiance en soirée.
ça venait d'un politique qui disait ça, enfin, je sais plus, que les féministes ont cassé l'ambiance et tout. Bref, ça, je vais casser l'ambiance, vous êtes trop stylés, d'accord. Je suis désolée, je reviens sur un truc politique, étudiant, mais cette semaine, moi, je suis désolée, j'ai été marquée par la répression du mouvement pour la Palestine à Sciences Po. Et moi, je voulais juste envoyer beaucoup d'amour, notamment aux étudiants et aux étudiantes juifs et juives, aux étudiants et aux étudiantes, notamment arabo-musulmanes, et qui se mobilisent pour la Palestine, parce que moi, je suis vraiment très impactée par comment, en fait, est-ce qu'on a l'agenda d'un État et médiatique qui vient absolument opposer. Et moi, je le dis aussi en tant que militante ici en France pour la Palestine et pour la vie des personnes palestiniennes, qu'on doit être d'une clarté sans faille sur la question de l'antisémitisme, mais qu'on n'est pas tenu d'accepter le harcèlement des militants pro-palestiniens. Moi, je suis à la fac de Nanterre et nous, la campagne de calomnie et de harcèlement, notamment de médias comme le Figaro, CNews, on l'a beaucoup subi. Les étudiants l'ont subi, les profs l'ont subi, mais à moindre échelle par rapport à Sciences Po. Il faut savoir que ça impacte des vies. Il y a des étudiants qui se mobilisent pour la Palestine, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, lynchés. Il y a des numéros de téléphone qui ont circulé sur des boucles WhatsApp et Telegram. Donc, un cyberharcèlement et un harcèlement absolument démesuré. Parfois, on les menacés de dégommer leur famille, de venir chez eux uniquement parce qu'ils parlaient du processus génocidaire à Gaza. Donc, je voulais envoyer tout mon soutien à ces personnes-là qui font preuve d'un courage sans faille et qui, aujourd'hui, notamment les étudiants de Sciences Po, osent s'afficher sur les médias pour dire non, en fait, on n'a pas merdé et on peut se mobiliser. Et aussi, je voulais donner tout mon soutien aux étudiants et aux étudiantes. Merci beaucoup Louise qui m'apporte du soutien sur le chat, je le dis aux auditeurs parce aux auditrices parce qu'on ne le voit pas, merci beaucoup. Mais aussi envoyer voilà, plein d'amour aussi aux étudiantes et aux étudiants juifs et juives qui aussi se retrouvent au milieu de tout ça, qui ont pu subir de l'antisémitisme dans la période quand il y a un contexte de guerre au Proche-Orient. Donc je voulais envoyer beaucoup d'amour. Et je voulais terminer sur une note positive, moi je suis une grande amoureuse de la nourriture, vraiment j'adore ça. Et je crois que quand on a effectivement des peuples qui subissent des massacres, des génocides, et dont, vous savez, dans ces processus-là, il y a toujours la question de est-ce que notre culture va survivre ? Et je crois que la culture passe beaucoup par la nourriture. N'hésitez pas à aller dans les restaurants palestiniens, notamment j'en ai vu un sur Paris dont je n'arriverai pas à vous redire le nom, qui a l'air super. Il y a aussi des restaurants ouïghours, par exemple, qui font de l'excellente cuisine. Et vous pourrez parler en fait avec des personnes qui, à travers leur cuisine, veulent faire vivre des cultures et des idées. Et donc voilà, mangez, aimez-vous et luttez.
C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci Safia. Merci Louise. Merci Nathalie. C'était trop cool de vous recevoir sur ce dernier épisode de Popol. Popol Show, qui est votre épisode bimensuel d'actualité politique qui vous propose un regard féministe. À bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, entre-temps, de soutenir Popol. Alors, c'est quoi mon objectif ? 1,55 milliard d'euros pour un rachat. À très court terme, ça va être quand même bien. Non, investissez dans les médias émergents qui vous proposent un nouveau regard et aussi qui cherchent à se faire une place dans ce monde et dans cette concentration médiatique abominable que l'on est en train de connaître. Merci beaucoup, à bientôt. We'll be right back.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.